RFI, minuit en temps universel, 1h ici à Paris.
Grégoire Morelli.
Et les incendies à Los Angeles à la une, les pompiers luttent toujours pour venir à bout des flammes. Mais les soldats du feu sont confrontés à une pénurie d'eau. Au moins deux raisons peuvent expliquer cette pénurie, nous dira un expert. Et ni prison, ni amende, Donald Trump est bien déclaré coupable pour avoir voulu acheter le silence d'une actrice de film pornographique, mais il n'aura pas de peine à effectuer. Le président élu républicain n'est donc condamné que symboliquement, les détails à suivre. La Turquie appelle la France à rapatrier et juger les djihadistes français emprisonnés en Syrie. Les mots du chef de la diplomatie turque Hakan Fidan lors d'une conférence de presse à Istanbul, une tâche que Paris rechigne à effectuer. Enfin, 2024 est l'année la plus chaude jamais enregistrée, conclusion de Copernicus, l'observatoire européen qui précise que les températures des deux dernières années ont dépassé en moyenne la limite de réchauffement fixée par l'accord de Paris. Au moins 10 personnes sont mortes dans les féroces incendies qui sévissent autour de Los Angeles et qui menacent désormais le quartier d'Hollywood. Environ 10 000 bâtiments ont été détruits et près de 180 000 personnes de la mégalopole américaine ont été appelées à fuir face aux flammes. Les autorités redoutent de découvrir de nouveaux morts. Les pompiers mobilisés en nombre doivent faire face à des vents de la force d'un ouragan combinés à des conditions de sécheresse extrêmes. C'est ce qu'a résumé le maire de la ville, la maire de la ville. Ils sont aussi confrontés ces pompiers à une pénurie d'eau. Trois réservoirs alimentant des bouches d'incendie ont été vidés par le combat contre les flammes dans le quartier de Pacific Palisades. Et pour David Blanchon, professeur à l'université Paris-Nanterre et spécialiste sur les questions de gestion de l'eau, la ville est confrontée à deux types de problématiques. D'une part, l'acheminement de l'eau et d'autre part, un urbanisme inadapté au climat et à la végétation locale.
Le risque incendie est connu depuis très longtemps et il est récurrent. Il y a des réservoirs placés un peu en hauteur qui permettent de donner de l'eau aux pompiers quand ils en ont besoin. Et évidemment, quand il y a des feux exceptionnels, les pompiers utilisent ces réservoirs et ils ne peuvent plus aller accéder pour les remplir à nouveau. Et donc, quand les réservoirs sont vides, les bornes incendie sont vides et c'est ce qui se passe actuellement. Mais c'est plutôt une question de logistique plutôt que de pénurie générale dans la région. Et c'est un peu construit comme une utopie parce qu'ils construisent un peu en bois d'abord et en milieu de forêt parce que ça rend le cadre de vie extrêmement plaisant, etc. C'est pas du tout adapté à la façon de construire Los Angeles, les maisons qu'on voit là à Hollywood, les palmiers, même c'est pas du tout une espèce locale, et c'est construit comme si on était en Floride ou dans le nord des États-Unis. Et on ne s'est pas du tout adapté au climat méditerranéen qui est celui de la ville de Los Angeles. Mais le marché fait que, effectivement, on prend ce risque avec une espèce d'utopie pas du tout adaptée au climat local.
David Blanchon, professeur à l'université Paris-Nanterre et spécialisé sur les questions de gestion de l'eau, c'était au micro d'Anne Verdaguer. Le président Joe Biden évoque, lui, des scènes de guerre après avoir visionné les images des flammes ayant ravagé la deuxième ville du pays. Le président démocrate sortant a ajouté qu'il existait des preuves évidentes de pillage. Le shérif du comté de Los Angeles a décrété un couvre-feu afin de les prévenir. Les États-Unis toujours, où Donald Trump obtient une dispense de peine dans l'affaire Stormy Daniels, cette star du porno avec qui il aurait eu des relations sexuelles et dont il aurait acheté le silence. En revanche, sa culpabilité dans cette affaire est confirmée. Donald Trump sera donc le premier président américain reconnu coupable au pénal alors qu'il entrera à la Maison Blanche dans 10 jours, Muriel Paradon.
34 chefs d'accusation. Donald Trump a été reconnu coupable en mai dernier par un jury populaire d'avoir falsifié des documents comptables pour cacher le paiement de 130 000 $ à la star du porno Stormy Daniels. Il a essayé d'acheter son silence après avoir eu des relations sexuelles avec elle. L'affaire remonte à 2016 et la campagne électorale pour la présidentielle qu'il a remportée face à Hillary Clinton. Durant son procès ces derniers mois, Donald Trump a nié les faits qui lui étaient reprochés, dénonçant une chasse aux sorcières destinée à lui faire perdre la dernière élection. Il a tout fait pour empêcher la justice d'aller jusqu'au bout, encore hier avec un appel devant la Cour suprême américaine qui a rejeté cette ultime tentative. Donald Trump, en tant que président élu, est protégé par la Constitution, a rappelé le juge Juan Merchan. Mais cela ne diminue pas la gravité d'un crime. Il n'écope donc d'aucune condamnation, mais sa culpabilité est confirmée et restera gravée dans son casier judiciaire. Il sera donc le premier président américain reconnu coupable au pénal dans l'histoire des États-Unis.
Muriel Paradon. On reste sur le continent américain, au Venezuela cette fois. L'opposant González Urrutia affirme que Nicolas Maduro s'est auto-couronné dictateur. Il appelle également l'armée à désobéir aux ordres illégaux. Une déclaration faite le jour où Nicolas Maduro a prêté serment pour un troisième mandat de président, alors que González Urrutia revendique lui la victoire lors de la dernière présidentielle. Il avait également évoqué la possibilité de se rendre ce 10 janvier au Venezuela pour prendre ses fonctions. L'opposant y a finalement renoncé. Au Proche-Orient, l'armée israélienne dit avoir mené ce vendredi des frappes sur des cibles des Houthis au Yémen. L'État hébreu a promis de traquer les dirigeants de la formation chiite. Les cibles, elles, comprenaient des sites d'infrastructures militaires dans la centrale électrique de Huzaz, qui sert de source centrale d'énergie pour le régime terroriste Houthi, selon un communiqué israélien. Je vous le disais en titre, la Turquie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan, a demandé ce vendredi à la France de rapatrier des djihadistes français détenus par les forces kurdes de Syrie, une option à laquelle rechignent les autorités françaises comme d'autres États européens dont des ressortissants sont gardés depuis plusieurs années dans le nord-est de la Syrie, dans des camps de prisonniers surveillés par les forces kurdes, les YPG. La Turquie qui menace, elle, de mener une nouvelle offensive contre ces YPG qu'elle considère comme un groupe terroriste. À Ankara, les précisions d'Anand Lauer.
Depuis des années, le soutien des Occidentaux, tout particulièrement des États-Unis et de la France aux forces kurdes syriennes, est perçu par la Turquie comme une trahison, ou du moins comme le signe que ses alliés ne s'intéressent pas à sa sécurité. Le fait que ces forces kurdes, les YPG, aient combattu contre le groupe État islamique et qu'elles gardent les camps de prisonniers djihadistes n'est qu'un prétexte aux yeux d'Ankara. C'est le sens des propos de son chef de la diplomatie, Hakan Fidan.
Si la France a quelque chose à faire, c'est de prendre ses propres citoyens, de les amener dans ses propres prisons et de les juger dans ses propres tribunaux. Ce n'est pas de les confier au service pénitentiaire des YPG ou d'une autre organisation terroriste et de venir dire ensuite qu'ils soutiennent cette organisation.
Depuis le changement de régime à Damas, la Turquie menace chaque jour de lancer une offensive contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie. Mais elle semble privilégier d'abord le dialogue avec le nouveau pouvoir syrien pour atteindre son objectif, le désarmement et la dissolution des YPG. Ankara propose par ailleurs d'aider les autorités de Damas à prendre en charge la lutte contre le groupe État islamique et les milliers de djihadistes ainsi que leurs familles actuellement détenues par les forces kurdes. Anand Lauer, Ankara, RFI.
Autre passe d'armes diplomatique incluant Paris, cette fois avec Alger, après le renvoi d'un influenceur algérien expulsé de nouveau par Algérie. La France dénonce une humiliation par l'Algérie et envisage de riposter. Le ministre des Affaires étrangères tricolore évoquant notamment la suspension d'un certain nombre de visas. On le rappelle, 3 Algériens et une Franco-Algérienne ont été récemment interpellés pour avoir mis en ligne des contenus haineux envers la France, incitant notamment à brûler vif, tuer et violer tout en appelant à des actes violents. La République démocratique du Congo, en bref, où les autorités viennent de retirer les autorisations de reportage accordées dans le pays aux journalistes d'Al Jazeera. Cette décision intervient après la récente diffusion par la chaîne d'information d'une interview avec le chef du M23, Bertrand Bissimwa. Le ministre congolais de la communication et des médias, Patrick Muyaya, avait reproché à Al Jazeera d'avoir interviewé le chef, je cite, d'un mouvement terroriste. Enfin, 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Confirmation aujourd'hui de Copernicus, et alors que 2025 débute, Simon Rosé, les climatologues anticipent une année un peu plus fraîche, mais de nombreux indicateurs restent inquiétants.
Dès la fin 2023, les climatologues anticipaient déjà une année 2024 record. En cause, le phénomène météorologique El Niño, alors au plus fort de son intensité et dont les effets réchauffants se font sentir toute l'année, bien qu'il ait pris fin en juin dernier. Pour 2025, en son absence, on devrait donc s'éloigner des records des 12 derniers mois, du moins selon la théorie, car en pratique, on part sur de mauvaises bases. Les températures relevées cet hiver restent très élevées, équivalentes à celles de l'année dernière au moment du pic d'El Niño. Elles ne redescendent pas et laisse les spécialistes dubitatifs. Est-ce un emballement du réchauffement climatique? Une variabilité naturelle du climat? Les hypothèses sont nombreuses et seuls les mois à venir permettront de voir si la situation revient dans un territoire plus attendu. Une large partie de la réponse viendra des océans moteurs de la machine climatique. Ils sont eux aussi en surchauffe avec des températures qui battent très largement record sur record depuis 18 mois. Un léger refroidissement a néanmoins été enregistré en décembre. Est-ce le début d'un retour à la normale. Là aussi, seuls les mois qui viennent permettront d'y voir plus clair.
Simon Rosé pour cette fin d'édition. 1h10 ici à Paris, ou presque. Prochain journal d'ici 50 minutes. Bonne suite des programmes sur RFI, bien sûr.